gouvernement américain, j'ai l'impression, cherche à apaiser ses relations avec le Nord, peut-être parce qu'il y a d'autres théâtres d'opérations bien plus importants, et en particulier au Moyen-Orient. Ils considèrent qu'on peut attendre en ce qui concerne la Corée du Nord. En ce qui concerne, en revanche, les dirigeants sud-coréens, il y a depuis longtemps annoncé par le candidat Lee Myung-bak le tournant, le changement auquel on assiste aujourd'hui. Non pas une remise en cause de la Sunshine Policy, mais sa condition clairement affichée, il faut des progrès dans le domaine de la dénucléarisation et dans le domaine des droits de l'homme.
Un pas en avant, deux pas en arrière, comment est-ce que vous expliquez finalement cette espèce de politique sinusoïdale de la Corée du Nord ?
Je crois que pour la Corée du Nord, il s'agit de tenir, ils n'ont rien d'autre à proposer. Sinon, des menaces, et quand les menaces ne marchent plus, eh bien, on fait les yeux doux, et quand les yeux doux ne marchent plus, on menace à nouveau. Il n'y a pas 36 solutions de la part de la Corée du Nord. Elle ne peut pas être attractive en soi, elle n'a pas du tout envie de s'ouvrir. Elle vit dans un conflit permanent, un conflit en partie d'ailleurs imaginaire. Ça fait vraiment des années que cela dure, et que le régime nord-coréen tient et l'annonce de bonnes dispositions grâce à l'aide de ses voisins, et en particulier de la Corée du Sud.
Alors la progression dans le dialogue, finalement, c'est une utopie tant que le régime se tient ?
Je ne sais pas si c'est une utopie. Ce que je constate, et c'est ce que Lee Myung-bak a constaté, c'est qu'après 7 ans de Sunshine Policy, le régime est toujours capable des mêmes diatribes anti-sud-coréennes. En plus, il a réussi à se doter de l'arme nucléaire. Enfin, le résultat est quand même pas très brillant. Alors, une autre politique va être tentée qui n'est pas, j'insiste là-dessus, une politique de confrontation, mais une politique d'aide conditionnelle. Ça me paraît assez sage, mais pour le moment, on doit reconnaître que le Nord n'est pas ravi de ce tournant.
Vous avez récemment eu l'occasion au Laos de rencontrer des réfugiés nord-coréens. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour nous ?
Il y a des gens qui quittent la Corée du Nord. Ils n'ont pas d'autre moyen que d'aller en Chine. Et la Chine, refusant de leur accorder le statut de réfugié politique, les considère comme des immigrés illégaux. Ces gens, en particulier les femmes, sont victimes de toutes sortes de trafics. Et ces gens tentent de quitter la Chine. Ils trouvent de l'aide sur place grâce à des pasteurs sud-coréens et des prêtres catholiques sud-coréens qui organisent des réseaux de passage vers les pays du sud-est asiatique et vers la Mongolie. Côté sud-est asiatique, passent des gens en Birmanie, au Laos, au Vietnam, et ensuite ils tentent de trouver un appui dans l'ambassade de Corée du Sud dans ces pays-là. Ce type de situation en dit long sur le malheur des Coréens du Nord. Ils fuient leur régime quand ils le peuvent, malgré tous les risques d'être renvoyés en Corée du Nord avec les punitions que cela suppose, traversent donc la Chine et tentent de rejoindre une Corée du Sud dont ils ne savent au fond pas grand-chose, sinon que son niveau de vie est beaucoup plus élevé que le leur.